c'était le générique de Un moment pour la Terre. Tout de suite, donc, c'est notre rendez-vous. Et le sujet est humain et nature. Quel est notre rapport au vivant ?
Merci beaucoup pour cette petite présentation. Effectivement, nous sommes très contents d'être présents aujourd'hui pour cette émission et surtout pour parler de ce sujet. Donc, moi, je suis Adrielle Pofilin en service civique à France Nature Environnement et je suis accompagnée de Louane qui se présentera un petit peu plus tard. Donc, tout d'abord, une rapide présentation de notre association. Donc, France Nature Environnement, c'est une association de protection de l'environnement qui est située au Mai. On fait partie du réseau national de France Nature Environnement, voilà, qui est représenté donc, au niveau national forcément, mais aussi au niveau régional et départemental. Et au sein du département, on va avoir plusieurs missions. D'abord, une mission de sensibilisation aux enjeux écologiques auprès du grand public et des scolaires en grande majorité. On va aussi participer au dialogue environnemental pour pouvoir porter la voix de la nature au travers notamment de plaidoyers. Et on a également des actions juridiques, notamment lorsqu'il y a une atteinte à l'environnement. On va donc faire usage du code de l'environnement. Et nous avons toujours besoin de bénévoles voilà, pour toutes ces missions. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet ou nos réseaux pour suivre notre actualité et s'il a envie vous en prend, nous rejoindre. On va maintenant revenir sur le thème qui est donc homme et nature, quel est notre rapport au vivant ? Donc c'est une thématique qui nous touche et encore plus en ce moment avec l'actualité et les reculs environnementaux que nous voyons aujourd'hui, avec un exemple assez flagrant finalement, la loi du plomb. Et cette actualité, elle nous montre qu'aujourd'hui, l'humain prend la décision d'introduire des lois et des produits qui sont écocides et qui vont à l'encontre d'une santé commune aux humains, mais aussi aux autres espèces, ce qui finalement reflète notre vision assez utilitariste de la nature. Donc sur ce mot-là, utilitariste, je vais laisser la parole à Louane, puisqu'elle va nous définir un petit peu plus cette notion de rapport vivant que nous avons en France, et elle va également introduire la discipline de l'anthropologie environnementale.
Merci beaucoup Adrielle d'avoir introduit l'émission. Donc en effet, je suis Louane Buant, je travaille aussi à FNE04 en tant que chargée de mission. Et dans cette première partie de l'émission, on va parler du rapport au vivant, mais aussi d'anthropocentrisme et aussi de manière d'habiter le monde et de cohabiter avec les autres vivants. Donc beaucoup de concepts qui peut-être ne vous parlent pas encore, mais j'espère vous parleront à la fin de l'émission radio. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a choisi de parler de la relation qu'entretient l'homme avec la nature? C'est parce qu'on ne peut plus fermer les yeux sur les enjeux environnementaux actuels. On entend parler quotidiennement de la montée des eaux, de la fonte des glaciers, de la pollution des sols, du réchauffement climatique, de l'érosion de la biodiversité. On ne peut plus fermer les yeux sur ces mots qui aujourd'hui en fait ne créent même plus d'émotions chez nous. Sommes-nous devenus insensibles à l'état dans lequel est notre maison, notre planète, la Terre? Voilà, donc aujourd'hui, on ne peut plus le nier. D'ailleurs, on parle d'ère anthropocène. Hein. L'anthropocène, c'est désigne une nouvelle époque géologique qui débute au moment où l'influence de l'être humain sur la géologie et les écosystèmes est devenue significative. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la Terre garde en mémoire notre passage, elle garde en mémoire nos activités à travers la pollution des sols, à travers la pollution de l'air, et j'en passe. Bon. Donc face à l'ensemble de ces enjeux environnementaux actuels, l'homme, l'humain doit se poser des questions. Comment expliquer donc que l'espèce humaine se positionne supérieure aux autres vivants? Pourquoi est-ce que l'humain impacte autant la Terre? Et donc ça s'explique par différentes façons. Tout d'abord par l'anthropocentrisme. Qu'est-ce que l'anthropocentrisme? C'est tout simplement une conception du monde qui place l'être humain au centre de toute réflexion. Et donc, ils considèrent que la nature et les autres vivants ont une valeur en fonction de leur utilité. Nous ne pensons pas et nous ne considérons pas les autres vivants. Et donc là, je vais parler d'anthropologie de l'environnement. Donc, l'anthropologie environnementale étudie les interactions entre les cultures humaines et leur environnement. Et je vais citer donc Philippe Descola et Bruno Latour, qui sont deux anthropologues environnementaux qui sont passionnants. D'ailleurs, je vous encourage fortement à les lire ou en tout cas à lire des articles à propos d'eux. Philippe Descola a étudié la façon dont les hommes relationnaient avec la nature dans le monde entier et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une façon universelle de percevoir la nature. Je m'explique, en France, en Europe, on a une idéologie, il dit lui le mot ontologie, qui s'appelle naturaliste, c'est-à-dire qu'on considère la nature comme une utilité. on est dans une idéologie utilitariste, c'est-à-dire qu'un arbre va nous servir à nous chauffer, à construire notre maison, un poisson va nous servir à manger, mais on oublie complètement leur intériorité, on en oublie leur âme, en fait, on les considère comme des choses, comme un décor autour de nous. La nature, les montagnes, les rivières sont un décor. L'homme est séparé de la nature. Et donc c'est cet anthropocentrisme qui nous empêche en fait de voir à travers les yeux d'une autre espèce. On est complètement centré sur nous en tant qu'être humain et on n'arrive pas à se déconstruire cette éducation, cette culture qui nous montre que la nature est une chose et une ressource à utiliser. Mais justement, quand on s'intéresse à l'anthropologie environnementale, on se rend compte qu'il y a d'autres manières d'habiter le monde au sein de la Terre. Et c'est passionnant, c'est aussi des réponses à nos questions sur comment résoudre ces problèmes environnementaux quand on s'intéresse aux autres cultures, aux autres peuples autochtones. Par exemple, je vais citer donc l'idéologie animiste cette fois-ci. Donc Philippe Descola est allé observer le peuple des Achuars en Amazonie. Et donc ce peuple, ils ont une relation vivante différente que la nôtre en Occident. Ils considèrent que chaque être vivant a une âme, une intériorité. Et donc considérer qu'un animal a une âme permet de positionner l'animal à l'égal de l'homme. Je peux aussi citer l'idéologie totémiste qui est plus présente dans des civilisations anciennes, notamment en Afrique, où l'être humain va, en fonction des caractéristiques communes avec un animal, se lier d'une relation de totem par des caractéristiques physiques ou intellectuelles et donc va également repositionner la position de l'animal envers l'homme. Cette discipline donc, d'anthropologie environnementale nous montre qu'il y a d'autres façons de percevoir le monde sur la Terre et ça encourage vraiment donc à déconstruire notre propre vision de la nature pour s'inspirer des peuples autochtones et donc de reconsidérer les vivants. À présent, je vais entamer donc une partie sur le droit de l'environnement qui est aussi un outil déjà pour répondre encore une fois aux conflits et aux enjeux environnementaux, mais c'est un outil d'évolution sociale, de mutation sociale. En fait, à travers le droit, mais aussi à travers l'anthropologie, on essaye de créer et d'imaginer de nouveaux récits. Et aujourd'hui, la façon dont on vit, la façon dont on habite le monde, a des biais, on le voit. Eh bien, il faut repenser, il faut imaginer de nouveaux récits. Et donc, la fonction fondamentale du droit, peut-être qu'elle pourrait être de penser l'impensable, puisque dans l'histoire, des groupes d'individus comme les esclaves, comme les femmes, ont eu des droits au fur et à mesure des luttes. Peut-être qu'on pourrait imaginer que les êtres vivants, que la nature peut s'attribuer une personnalité juridique, peut aussi se défendre en justice. Aujourd'hui, seulement l'espèce humaine, l'homme, peut se défendre en justice. Est-ce pas injuste finalement ? Et donc, je voulais parler du droit de l'environnement qui a été introduit par Christopher Stone, qui est un juriste américain, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les arbres peuvent-ils plaider ?». Il écrit ce livre dans un contexte de controverse, puisque à la fin du XXe siècle, aux États-Unis, dans le parc du Yellowstone, un grand projet de parc d'attractions devait être construit donc dans ce parc naturel, qui abritait une grande population de séquoias. Et donc, il s'est posé la question d'attribuer donc une personnalité juridique à des arbres, parce qu'il lui semble que si l'on pouvait en fait parler au nom des plantes, parler au nom des animaux, de l'eau ou du sable, les juges seraient plus sensibles à leur disparition. Et donc, donner des droits aux non-humains, au même titre qu'aux humains, permettrait de réintégrer l'humanité dans le monde vivant, que l'humain fait partie d'un tout et que ce tout a et possède les mêmes droits en justice. Mais ça permet aussi de considérer la Terre comme un seul et même organisme, voilà, dont l'humanité constitue une partie fonctionnelle. À présent, je vais citer divers exemples de droits de l'environnement. Hein. Au cours de ces 15 dernières années, fleuves, forêts, glaciers, parcs et ensembles naturels se sont vus donc reconnaître des droits dans plusieurs systèmes juridiques. Par exemple, les droits de la nature ont été formalisés dans la Constitution de l'Équateur en 2008. En Bolivie, la loi sur les droits de la terre-mère a été adoptée en 2010 et énonce dans son article 5 que le Pachamama, donc la terre-mère, est un sujet collectif d'intérêt général, titulaire de droit. Je peux aussi citer la Colombie qui, dans un jugement de 2016, la Cour constitutionnelle a conféré la personnalité juridique au fleuve Atrato. Et enfin, en Nouvelle-Zélande, il y a deux lois qui ont été votées au Parlement qui accordent la personnalité juridique au parc national de Te Uruwera en 2014, mais aussi au fleuve Whanganui en 2017. Donc ce qui intéressant et ce qui illustrait aussi le début de ma partie sur l'anthropologie environnementale, c'est que l'ensemble de ces pays ne sont pas forcément en Occident. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'en Europe, il existe des droits attribués à la nature ? Puisque je le rappelle, nous avons une idéologie qui est naturaliste, hein, qui est plutôt utilitariste, où on voit la nature comme un décor, comme une ressource. Et en fait, il existe des droits qui ont été attribués, notamment la mer Ménor, qui est une lagune espagnole, donc en 2022. Et finalement, près de chez nous, en France, de nombreux travaux se font pour justement étendre ces droits de la nature, notamment aux fleuves. Et j'ai envie de citer l'International des rivières à Nantes, qui font plusieurs auditions publiques et des réflexions interdisciplinaires pour réfléchir justement à attribuer au fleuve Loire une personnalité juridique. Et je vous encourage fortement à aller voir leur site internet, donc l'International des rivières. Il existe également donc, l'Assemblée populaire du Rhône, mais aussi SOS Durance Vivante ou la Déclaration des droits de la tête dans les Pyrénées-Orientales. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que notre rapport au vivant, il dépend énormément de la manière dont nous percevons les choses. Et donc le droit est vraiment un outil pour déconstruire et raconter une nouvelle histoire, une histoire où l'écocentrisme, donc où l'écologie, l'environnement serait au centre et non l'humain, qui reconnaît donc à l'ensemble de l'écosphère une valeur intrinsèque, dépasserait l'anthropocentrisme, donc l'homme au centre, par l'attribution d'un sujet de droit à la nature. Donc tout ce récit que je dis depuis 5 minutes est peut-être très utopique et irréel, mais je pense réellement que déjà l'interdisciplinarité et l'ensemble des études peuvent nous permettre de réfléchir et de repenser, encore une fois je me répète, mais notre manière d'habiter le monde et la façon dont nous percevons le vivant. Et il faut lire, il faut s'intéresser à l'art, à la culture qui permet aussi de faire passer des messages et de créer en nous de nouveaux imaginaires pour enfin nous enlever ce filtre qui est devant nos yeux et qui nous fait croire que la nature a un seul but, nous servir. À présent, je vais laisser Adrielle, après, il me semble, un petit passage musical, nous parler davantage du droit, mais plutôt tourner vers les animaux de manière plus concrète. Je vous remercie beaucoup. Nature's way.
Bien, nous revoilà donc après ce petit interlude musical. Donc vous venez d'écouter la musique Nature's Way par Spirit. Et comme l'a annoncé Louane juste avant, je vais maintenant parler du droit de manière un peu plus concrète. Je vais aussi compléter ce qu'a pu dire Louane à ce sujet. Et donc, à l'heure actuelle, en France, il existe deux statuts juridiques, le statut d'humain et le statut de bien. Là, je vais parler vraiment plus des animaux, je vais me centrer sur les animaux. Et les animaux, eh bien, ils ont statut de bien, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des humains, donc en quelque sorte, par défaut, ils sont considérés comme des biens. On admet tout de même, depuis un article de loi de 2015, que ce sont des êtres vivants doués de sensibilité. Donc on voit bien qu'il existe malgré tout une nuance dans les textes de loi qui reconnaît que les animaux ne sont pas de simples objets. Et cet article de loi, il est censé protéger les animaux contre les maltraitances notamment, mais il y a une petite nuance, il ne concerne que les animaux domestiques et les animaux d'élevage, c'est-à-dire que les animaux sauvages ne sont pas concernés par cet article de loi. Je vais également revenir sur une notion qui a pu être dite plusieurs fois, mais pas forcément expliquée, la notion de personnalité juridique, puisque les animaux n'en ont pas. La personnalité juridique, c'est quelque chose qui est propre à l'humain, c'est quelque chose qu'on va acquérir à la naissance. Et en fait, c'est tout simplement une personne qui dispose de droits et de devoirs. Donc ça peut être une personne physique ou une personne morale. Donc voilà, c'est vraiment très propre à l'humain. Et dans toutes les lois qui concernent les animaux, il faut aussi prendre en compte tous nos biais cognitifs, puisqu'il y en a, Louane les a aussi annoncés, puisqu'on a aussi une hiérarchisation dans l'importance que l'on accorde à un animal. Donc ça s'appelle le spécisme. Et ça va se retrouver dans le fait qu'on ne va pas accorder la même protection à tous les animaux. On va retrouver par exemple les animaux domestiques, qui ont généralement plus de droits juridiques puisqu'il y a une dimension affective, une dimension proche de l'homme. Voilà, on admet qu'il y a vraiment un lien émotionnel qui se tisse avec l'humain et c'est pour ça qu'ils ont souvent plus de droits. Ensuite, on va avoir les animaux de travail, les animaux d'élevage, où là, il y a une dimension un peu plus transactionnelle et productiviste puisque l'animal de travail, il doit produire quelque chose, que ce soit un effort, une énergie ou une denrée. Donc voilà, on n'a pas du tout la même manière de juger un animal de travail et un animal domestique. Et enfin, on va avoir les animaux sauvages. Donc comme je l'ai dit, ils ne sont pas concernés par cet article de loi de 2015. Et on va avoir aussi parmi les animaux sauvages à nouveau cette notion de spécisme puisqu'ils vont souvent être jugés par la valeur et l'importance que l'on va leur donner. Par exemple, le lynx, c'est un animal où il est souvent assez bien vu. Il y a une dimension assez mystique autour de cet animal. Et je pense que beaucoup de personnes peut-être savent qu'il y a eu des efforts de réintroduction dans certains endroits en France. Bon, ça a donné ce que ça a donné, mais il n'y a pas forcément autant eu besoin de sensibiliser et de redorer l'image du lynx par rapport à d'autres espèces comme le grand hamster d'Alsace. Je pense qu'il y a assez peu de personnes qui savent ce qu'est le grand hamster d'Alsace, mais il y a bel et bien eu une réintroduction de cet animal dans les plaines d'Alsace et il a fallu faire un énorme travail de sensibilisation pour redorer l'image de cet animal qui était considéré comme nuisible par les locaux et prouver, expliquer qu'il est bel et bien utile finalement aux écosystèmes. Donc voilà, on voit bien cette différence ici. On a la même chose avec un rapace et un pigeon. Je pense qu'on ne va pas accorder autant d'importance à un pigeon qu'à un rapace. Ensuite, je vais faire une petite partie où là, je vais, de manière assez concrète, donner des exemples de décisions juridiques qui ont été faites en faveur des animaux. Déjà, le fait de donner un droit, un statut juridique aux autres espèces, c'est une question sur laquelle les instances juridiques, mais aussi les associations ou encore les mouvements citoyens se penchent de plus en plus. Et ça, c'est notamment au travers d'études récentes qu'on peut avoir sur les animaux. Puisqu'en effet, il est considéré que ce qui nous rend humains, c'est notre capacité à éprouver des émotions, et notamment selon nos expériences vécues. Ça a un nom, ça s'appelle la sentience. Or, comme le montrent toutes ces études qui arrivent de plus en plus, les animaux, ils sont également sentients. Et l'intelligence, les émotions, la sensibilité, ce ne sont pas des caractéristiques propres à l'homme. Les animaux aussi ont toutes ces caractéristiques. Donc avec ce constat, l'idée émerge que bah, si les droits ils sont vraiment basés sur la sentience et la capacité de souffrir, dans ce cas-là, ils ne devraient pas être exclusivement humains, mais ils devraient aussi être étendus aux animaux. Dans les décisions juridiques marquantes qu'on a pu avoir historiquement et qui ont conféré des droits, on a notamment le droit de l'habeas corpus. Alors, qu'est-ce que c'est l'habeas corpus ? C'est une notion juridique qui est originaire d'Angleterre et en fait, ça permet de protéger les citoyens contre les arrestations et l'emprisonnement arbitraire, donc sans raison valable. Et ça assure que la personne arrêtée soit présentée devant un juge, voilà, pour avoir un jugement équitable. Concrètement, pour les animaux qui en ont bénéficié ou la demande a été faite, c'est notamment l'interdiction à l'enfermement de l'habeas corpus qui a été utilisée. Puisqu'effectivement, pour la plupart de ces animaux, ils étaient dans des parcs zoologiques. Et généralement, ils ont été capturés dans la nature quand ils étaient encore assez jeunes. Notamment, certains de ces animaux montraient des signes de stress et de détresse émotionnelle assez clairs des suites de leur enfermement. Comme exemple marquant, on va citer en 2014 le cas de la femelle orang-outan Sandra, qui n'a pas bénéficié de l'habeas corpus, mais elle a néanmoins été reconnue comme une personne non humaine par la Chambre de cassation pénale de Buenos Aires. Et ça, c'est une décision novatrice puisqu'elle n'avait jamais eu lieu auparavant. Voilà, l'orang-outan Sandra, c'est vraiment le premier animal qui a été reconnu comme personne non humaine. Ensuite, en 2016, on va avoir la femelle chimpanzé Cecilia. Et cette fois-ci, c'est le premier animal non humain qui a bénéficié de l'habeas corpus. Cecilia était détenue dans une cage assez insalubre aux eaux de Mendoza, en Argentine. Et suite à la décision judiciaire du tribunal, elle a été libérée, puis transférée dans le sanctuaire des grands primates de Sorocaba. On va avoir également deux cas où malheureusement la demande d'habeas corpus n'a pas été acceptée. D'abord l'ours Chucho en 2017. En fait, la décision avait d'abord été acceptée par le juge, puis ensuite cassée par la Cour constitutionnelle de Colombie en 2019. Et plus récemment, en 2021, on a eu le cas de l'éléphante Happy. Donc cette fois-ci, malheureusement, le jugement rendu par la Cour d'appel n'a pas reconnu Happy comme une personne au sens légal, ce qui fait qu'elle n'a pas bénéficié de l'habeas corpus. On voit concrètement qu'il y a tout de même eu des décisions qui ont été prises, qui ont été favorables à certains animaux, et que c'est une question finalement qui revient de plus en plus, et on va de plus en plus oser notamment demander cet habeas corpus pour les animaux, notamment en ce qui concerne leur enfermement. Je vais maintenant faire un petit point sur les limites du fait de donner un droit aux animaux, puisque oui, il y en a. La première limite, finalement la plus grande limite, c'est le fait que la nature et les animaux ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Donc ça signifie que c'est à l'humain de juger de la nécessité de protection ou non de ces animaux et de cette nature. Mais bien qu'il existe aujourd'hui de nombreux indicateurs pour connaître l'état de santé d'un milieu naturel ou alors d'une population, il n'est pas possible de savoir à 100% au final si la décision qu'on va prendre est la bonne, si vraiment c'est en faveur de cette nature et de ces animaux. Encore une fois, ils ne peuvent pas s'exprimer et on ne pourra jamais complètement les comprendre. C'est tout de même, malgré tout, du fait qu'on ne fait pas partie de la même espèce, on ne peut pas s'exprimer complètement à leur place, c'est assez logique. Et le fait de tout de même avoir ce côté de « on s'exprime à leur place et c'est nous qui prenons les décisions pour eux », c'est une porte ouverte finalement pour tous nos biais cognitifs, dont certains ont pu être cités par Loane, donc les biais anthropocènes, les biais spécistes, les biais anthropomorphistes et encore bien d'autres. Juste petit point sur le mot « anthropomorphisme », c'est le fait de transposer des comportements tout à fait humains aux animaux. Par exemple, votre chat qui regarde la fenêtre, vous pouvez vous dire « Oh, il est triste, il regarde très souvent par la fenêtre », alors que peut-être simplement il est en train de regarder la mouche qui se balade sur la vitre. Voilà, c'est aussi un biais cognitif qui n'est pas forcément toujours bien pour les animaux, finalement. Maintenant, pour terminer cette plongée dans le droit du vivant, on vous propose un petit récit. Donc, vous pouvez fermer les yeux si vous le voulez et imaginez un instant. Ce matin-là, vous vous levez comme à votre habitude. Vous ouvrez votre fenêtre et admirez le cours d'eau en contrebas, qui bénéficie d'un statut juridique depuis quelques années maintenant. Il n'a jamais été aussi radieux. Plus de sacs plastiques traînant en bord de rive ou d'embâcles construits par quelques campeurs pour barboter dans l'eau. Désormais, on respecte le cours d'eau comme on respecte un ami. Vous allez vous balader dans le village, puis dans la forêt attenante. Suite à la tempête, quelques arbres se sont effondrés et un groupe de citoyens, duquel vous faites partie, vient leur rendre un dernier hommage. Vous vous êtes battu pour cette forêt, avec le soutien d'associations, pour qu'elle ait le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté. En rentrant chez vous, vous découvrez un pigeon blessé. Il boite et son aile gauche traîne au sol. Vous décidez d'appeler les secours et, en attendant leur arrivée, vous surveillez l'oiseau pour qu'il ne se blesse pas davantage. Une fois l'oiseau pris en charge, vous vous rendez sur la place du village où vous lisez, gravé dans la roche, « Tous les êtres vivants naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de sens et d'émotion et doivent cohabiter les uns avec les autres. »
Après ce récit conté par Adrielle, voilà, peut-être que ces mots vous ont un petit peu touché, questionné, ont ouvert des réflexions et vous avez envie de davantage considérer les vivants autour de vous. On voulait quand même vous conseiller quelques recommandations, donc plutôt littéraires, pour approfondir donc ces sujets d'anthropologie environnementale et de droit de l'environnement. Donc tout d'abord, le dessinateur et philosophe Alessandro Pinocchi, qui illustre sous forme de dessin les différents rapports aux vivants et les nouveaux imaginaires possibles à travers le monde. Donc il y a son ouvrage « Ethnographie des mondes à venir » et son autre ouvrage « Petit traité d'écologie sauvage ». Donc les livres de Pinocchi en fait, permettent de comprendre les pensées des anthropologues environnementaux comme Philippe Descola et Bruno Latour qui, dans leurs essais, décrivent beaucoup plus leurs recherches. Donc les dessins d'Alessandro Pinocchi sont beaucoup plus accessibles et pour autant très très intéressants. Pour continuer sur l'anthropologie de l'environnement, donc, il y a le livre de Philippe Descola « Part de la nature et culture » où il justement explique concrètement ses recherches sur les différentes ontologies, donc idéologies et donc rapports aux vivants qui existent dans le monde, et le livre « Face à Gaïa » de Bruno Latour. Enfin, si vous voulez vous initier au droit de l'environnement, il y a un livre qui s'appelle « Justice environnementale » de la collection du Muséum d'Histoire Naturelle. Je vous conseille également le dictionnaire critique de l'Anthropocène qui provient de l'édition du CNRS. Donc dans le dictionnaire critique de l'Anthropocène, on retrouve en fait tout le vocabulaire, les nouveaux mots qui permettent de décrire des événements qui n'existaient pas avant. Donc beaucoup, beaucoup de nouveaux mots apparaissent au fur et à mesure que le monde aussi autour de nous évolue. Et donc je continue avec un ouvrage qui parle du droit des animaux, donc c'est « Les animaux aussi ont des droits », écrit par Peter Singer, un penseur central justement dans l'étude du spécisme et du droit des animaux, mais également Elisabeth de Fontenay et Maurice Cyrulnik. Donc c'est un petit livre très très global et concret qui reprend toutes ces pensées justement d'attribuer une personnalité juridique à un animal. Et je voulais conclure donc ces recommandations par cette fois-ci citer des ONG et des associations, notamment Wild Legal, qui est une ONG qui met en avant justement tout ce qui se passe dans le monde autour de la personnalité juridique donnée à la nature. Également l'association Notre Affaire à Tous, qui allie donc écologie et droit. Notre Affaire à Tous est une association donc voilà, qui utilise le droit comme un levier stratégique de lutte contre justement la crise environnementale. Elle défend vraiment cette vision que le droit est un outil pour la justice sociale et environnementale. Et donc je voulais terminer avec le collectif, plutôt le mouvement de penseurs et de citoyens qui existe à Nantes, l'International des Rivières, qui travaille ensemble depuis maintenant quelques années pour attribuer donc une personnalité juridique au fleuve Loire. Et je vous invite grandement à aller voir leur site internet qui est très très intéressant et qui mène à beaucoup de réflexions. Et donc on arrive à la fin de cette émission et on espère sincèrement que voilà, elle aura réveillé des questionnements intérieurs chez vous sur votre rapport au vivant. Et je voulais terminer en, en annonçant que France Nature Environnement, donc Alpes-de-Haute-Provence, recherche des bénévoles toute l'année pour aider sur différents projets liés à l'eau, aux déchets, à la biodiversité, aux montagnes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on sera ravis. Et aussi, n'hésitez pas à regarder notre agenda qui regroupe tous les événements des prochains mois. Par exemple, le 30 septembre prochain à Digne-les-Bains, il y aura une conférence organisée dans le cadre du Festival Inventaire sur la biodiversité des Alpes face au réchauffement climatique. Et plein d'autres événements auront lieu donc en septembre-octobre. Voilà, n'hésitez pas à regarder notre site internet. Merci en tout cas pour votre écoute et à bientôt. Just like the sea, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself, all in slow motion. Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand so the flowers can grow back again. 'Cause just like the seed, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget.
Voilà, un moment pour la Terre. Merci Adriel et merci Louane pour cette très belle émission que vous retrouverez en ligne sur notre site www.fréquencemistral.com, onglet de Digne-les-Bains, dans nos émissions. Merci encore, c'était un beau travail que vous avez fait et bonne journée à tous.